Michael et Chaim pour l'organisation de cette soirée. Nous allons essayer de parler, selon le titre qui a été donné, d'essayer d'entériner et de voir le sens profond de ce que veut dire Hanouka à travers un libellé que nous avons intitulé, le judaïsme, religion ou nation. Donc, en hébreu, Yahadut, Haim Zo Ze Lehum, O Ze Datiyut, et quelle est la relation entre ces différentes appellations. Alors, Yoël va commencer, il va certainement traiter, pour ce qui n'a pas été dit, sachez que Yoël et moi étudions en Hebrouta toutes les semaines, et Yoël est peintre de reconnaissance internationale, il est aussi rave, et il est aussi ce qu'on appelle maître kabbalique, c'est-à-dire que avec Yoël, nous étudions à travers les textes que nous étudions, la pensée du Rav Kook dans ces deux dimensions à travers laquelle elles ont été présentées, c'est-à-dire d'un côté ésotérique, de l'autre côté philosophique. Vous avez compris où était l'ésotérisme et où se trouvait la philosophie, bien entendu. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Moi-même, je suis professeur d'études juives, maître de conférences dans différentes institutions d'académie. Je suis auteur de deux bouquins, et lui écrit en hébreu, moi j'écris en français. Mais vous pouvez nous suivre sur les radios, sur les différentes télévisions, Hot 96 en Israël, 613 TV câblés vers l'étranger, les journaux dans lesquels nous écrivons. Je n'ai pas pensé à amener nos bouquins, mais bon, celui qui le désirera pourra nous contacter. Il est clair que nous écrivons, car, et à travers le pinceau, la courbe ou le trait, ou à travers l'écriture, la lettre qui est une note, le mot, un temps ou la phrase, une mesure, eh bien, il est évident que nous essayons de faire valoir artistiquement ce que le verbe et la verve peuvent vouloir dire dans l'histoire que nous vivons en ce moment. Alors, je vais laisser la parole à Yoël. Ensuite, je la reprendrai à la suite de ce que nous aurons exposé sur le plus petit de nos doigts de pied, bien évidemment. Vous aurez la parole pour poser des questions et à travers vos questions, essayez, bien entendu, d'étayer et d'élaborer un peu plus la pensée qui aura été exprimée précédemment. C'est ça.
Toda Rabba, merci à Ronnie, merci à tous, merci de nous inviter à Bat Yam. Je n'ai pas abandonné à Bat Yam, tout simplement on ne m'a pas contacté. Quand on me contacte, généralement j'arrive, c'est le cas de ce soir, Baruch Hashem. Le sujet est tellement vaste qu'il est difficile de commencer à le cerner par un bout, mais il faut commencer par quelque chose. Je dirais que le peuple d'Israël, la nation d'Israël, est éduquée par un degré qui est au-delà de ce monde. C'est-à-dire que si ce monde est géré selon le Maharal de Prague dans Netzach Israël, dans son livre, par le chiffre 7, car toute la gestion de ce monde, le monde créé, le monde que nous vivons, est un monde qui est à base de 7, eh bien le monde qui est la source de ce monde-ci, lui, il est au-delà du 7, c'est-à-dire qu'il est de l'ordre du 8, qui en réalité est l'unité, bien entendu. Donc c'est une unité qui dépasse le 7, qui est à la source de tous les 7 degrés que le monde nous offre, c'est-à-dire l'homme rassasié dans ce monde se dit « savea » en hébreu, c'est la même racine que le chiffre « sheva ». C'est-à-dire être rassasié, c'est être dans le 7. Mais il est un degré qui dépasse l'entendement premier de la première lecture du premier degré des choses. Celui-ci est de l'ordre du « shmoné ». Et « shmoné » en hébreu, ce sont les lettres de « neshama » et c'est les lettres de « shemen » de l'huile que vous allez voir est tellement rencontrée à Hanouka. Donc notre éducation commence par ce chiffre 8 qui est un chiffre qui dépasse l'entendement premier, et c'est de là-bas que nous recevons, c'est la source de ces sept. En hébreu, Be'er Sheva. Be'er Sheva n'est pas le nom d'une ville, seulement, c'est tout simplement le puits des sept degrés de ce monde. C'est-à-dire que avant d'arriver à ce monde qui est géré par le sept, nous sommes en réalité dans un monde beaucoup plus élevé qui est la source, le puits Be'er de ces sept degrés. Blanche-Neige et les sept nains. C'est-à-dire le monde d'en haut qui est tellement limpide, tellement pur, tellement dans le monde des idéaux, et le monde dans lequel nous essayons de traduire ces idéaux, qui se trouvent donc dans le 8, dans nos 7 degrés de ce monde. Et chaque fois, nous avons des voyages intérieurs entre le 8 et le 7 que nous devons vivre simultanément. Ceci est le songe de Yaakov, car lorsqu'il quitte Be'er Sheva, maintenant vous comprenez qu'il quitte le 8, pour descendre dans le 7, immédiatement il doit rêver de cette échelle qui garde le contact avec le 8 pour amener les valeurs du 8 dans le monde du 7. Et ça c'est le secret de ce monde. Nous sommes Yaakov, nous sommes l'échelle, et chacun de nous est en réalité un point de contact entre le monde infini et le monde fini. Et tout ce que nous sommes venus faire dans ce monde, c'est tout simplement d'amener, d'acheminer les valeurs de l'infini pour que la morale, pour que l'éthique, pour que les valeurs de ce monde idéal apparaissent dans ce monde, dans le monde d'en bas. Vous avez sûrement entendu les notions de Jérusalem d'en haut et Jérusalem d'en bas. Eh bien, la Jérusalem d'en haut, c'est exactement ce chiffre 8, c'est-à-dire l'idéal, le modèle que je dois traduire dans ma Jérusalem d'en bas, c'est-à-dire dans ma vie concrète, palpable et dans l'espace-temps où l'homme, en réalité, essaye d'évoluer. La bénédiction que nous récitons tous les matins, Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato, vient nous donner le rythme, le véritable rythme, l'ordre avec lequel nous devons approcher notre judaïsme. Akadosh Baruch Hu nous a choisis en tant que nation. Il ne nous a pas choisis en tant qu'individus, aussi pratiquants soient-ils. Je vous rappelle que Abraham était un homme très relié. Je n'aime pas le terme religieux. Mais ça ne suffisait pas. La preuve, c'est qu'Akadosh Baruch Hu lui dit « Lech lecha », je veux que tu quittes ton individualité en fait, parce que j'ai prévu pour toi autre chose. « Ve'e'isra legoy gadol », je veux faire de toi une nation. C'est-à-dire, ça ne me suffit pas que tu sois religieux là où tu te trouves. Même si à Hanouka tu allumes des veilleuses dans les rues. Je veux t'amener, je veux t'acheminer vers un lieu terrestre qui a son secret lui aussi, qui seulement dans les frontières de ce lieu-là, tu pourras te révéler en tant que ce que j'ai prévu pour toi, c'est-à-dire être une nation de Kodesh. Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Je veux que tu deviennes un peuple sur sa terre pour révéler mes valeurs divines sur terre. D'après cela, nous avons en réalité une mitzvah de base, qui est en réalité le fondement même de tout le judaïsme. C'est la mitzvah de créer un système qui va gérer toutes les facettes de ce monde pour nous permettre de vivre dans un collectif afin de réaliser ce que je viens de dire. Tout ceci s'appelle une royauté. En hébreu, nous devons fonder la royauté d'Israël qui est la réplique de la royauté du ciel sur terre. C'est-à-dire que le roi d'Israël en question, dont l'ultime roi c'est Melech HaMashiach, le roi Mashiach, c'est tout simplement fonder un état hébreu dans lequel nous pouvons traduire toutes ces données divines pour faire voir au monde entier que la lumière sort de Sion et que le monde doit monter à un autre étage de vie et à ne pas se suffire de vivre comme le monde vit aujourd'hui, et c'est pour cela qu'il est en dépression totale. Ça veut dire que le peuple d'Israël doit jouer le rôle du Mashiach pour les nations du monde. Le seul peuple qui a été libéré un jour, c'est Israël. Mais ça ne suffit pas. Nous sommes sortis d'Égypte. Les nations du monde se posent la question, à quand notre tour ? Eh bien, nous devons faire en sorte de libérer les nations du monde de l'Égypte mentale dans laquelle ces nations se trouvent. Et ça, c'est le travail du peuple d'Israël, d'être la lumière pour les nations, un travail très difficile et très contredit et contrarié, parce que justement, cela suppose que le monde se hisse à des valeurs qu'il n'a pas encore comprises jusqu'à maintenant, et donc ça fait mal, et ça oblige les nations du monde de changer le mode de vie. Et comme ça dérange, parce qu'on n'a pas envie de changer, parce qu'on a envie de vivre comme on a envie de vivre, et que personne me donne des critères qui viennent de je ne sais où, eh bien à chaque fois qu'il y ait un représentant de ces critères, eh bien il faut l'éliminer immédiatement parce qu'il ne fait pas partie de ce monde. Donc Israël, effectivement, ne fait pas partie de ce monde. C'est pour ça que les nations du monde s'appellent les nations du monde, Umot Ha'olam, sous-entendu que Israël n'est pas Umat Ha'olam. Nous sommes des étrangers qui sont venus sur cette terre comme un corps étranger qui est difficile à accepter. Donc les nations qui, elles, sont du monde, à chaque fois qu'elles voient le représentant qui vient d'ailleurs, eh bien, d'une manière naturelle, il y a rejet. De la même manière que le Beth Amikdash est une ambassade de l'infini sur terre, c'est pour ça qu'il a du mal à rester, à chaque fois il se détruit, parce qu'il y a rejet. Eh bien, de la même manière, au niveau humain, la nation d'Israël est toujours rejetée parce qu'elle représente quelque chose qui n'est pas de ce monde. Abraham Avinu, qui était le porteur de ce message divin, dit aux gens de Chet, je suis comme vous, et ces gens de lui répondent, pas du tout, notre cher ami, nous savons qui tu es, Nessi Elohim ata betochenu, tu es le représentant de Dieu sur terre, arrête de nous raconter des histoires. Ça veut dire que lorsque le juif veut s'assimiler et être comme les autres, eh bien les autres le remettent à leur place, à sa place, et lui disent, mais tu n'es pas des nôtres, arrête de jouer comme si tu étais, tu te déguises. Tu es le représentant des valeurs infinies dans ce monde. Arrête de mentir, arrête de te mentir, et arrête de nous mentir. Repars sur ta terre en réalité. Intuitivement, c'est ce que les nations veulent, mais lorsque ça se fait, elles contredisent ce phénomène, et ça c'est une étude très profonde qu'il faut développer, qu'on n'a pas le temps ce soir. Et puisqu'il n'est pas de roi sans peuple, en hébreu, En Melech Belo Am, c'est une règle de nos sages. Ça veut dire que Dieu lui-même ne peut pas régner sur terre si le peuple d'Israël ne se présente pas en tant que peuple, que nation sur sa terre. Il ne se suffit pas d'être juif en exil pour que Dieu descende sur terre. C'est une faute. La Gemara le répète à plusieurs reprises que quiconque n'a pas compris ce sujet et qu'il reste en dehors de cette terre, eh bien ne joue pas son rôle de nation, mais il est tombé dans la religion. Et voilà la différence entre la nation d'Israël et la religion que l'exil nous a forcé à jouer. En exil, nous étions des religieux. En Eretz Israël, nous sommes une nation qui respecte les valeurs et les mitzvot du divin, mais en tant que nation. Asher bachar banu mikol ha'amim, en tant que nation, venatan lanu et la Torah. Il nous a donné la Torah en tant que nation et pas en tant qu'individu juif qui pratique Torah et mitzvot. Mais pas ça notre but. Le but, c'est de faire les actions de cette nation qui sont en réalité qu'Akadosh Baruch Hu nous donne sous la forme de la Torah et des mitzvot. Autrement dit, nous n'avons aucune mitzvah et aucune Torah individuelle. Quand je mets mes tefillines tous les matins, je les mets pas parce que je suis religieux, mais parce que j'appartiens à la nation d'Israël qui, elle, a reçu la mitzvah de mettre les tefillines. Donc mon acte est un acte national et vous vous l'appelez acte religieux. C'est n'importe quoi. De la même manière que dans le calendrier hébraïque, il n'y a aucune fête religieuse. Ce sont toutes des fêtes de la nation d'Israël que la nation a reçues et que moi je vis et j'applique et je réalise. Donc moralité, tous les jours de l'année sont des jours de la nation d'Israël. Toutes les mitzvot sont des mitzvot de la nation. Le Shabbat est un Shabbat national, parce que c'est la nation d'Israël qui a reçu le Shabbat, et jamais, au grand jamais, un individu dans la Torah a reçu le Shabbat comme mitzvah individuelle. Ça n'existe pas. C'est la nation qui a reçu toute la Torah et toutes les mitzvot. Tout est au niveau de la nation. Si vous ne comprenez pas cette base, il est impossible de continuer parce que vous pouvez avoir l'impression qu'en étant religieux, car le religieux n'a pas besoin de terre, donc il peut être religieux à New York et à Paris. Mais ce n'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé. À chaque fois que le Créateur rencontre un homme, regardez, c'est la Torah. C'est le Tanakh. La seule chose qu'il trouve à lui dire, c'est « Retourne, va sur ta terre, que j'ai promis à tes pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. » Citez-moi un seul endroit dans la Torah où Akadosh Baruch Hu parle d'un acte religieux, alors que moi je peux vous apporter des kilos de référence, où à chaque fois que Dieu rencontre un homme, comme il est la source de cette révélation de la nation, eh bien tout ce qu'il lui dit, c'est retourne vers ta terre. Et la faute la plus grave, c'est celle que Yaakov, malheureusement, lui-même avoue avoir commise. Va'echar ad ata. Dans la paracha qu'on vient de lire, Yaakov a peur. Le texte le dit. Vaïra Yaakov me'od, vaïetserlo. Yaakov a très peur. Et les commentaires de nous dire, Shema yigrom hachet. Peut-être qu'il a fauté. Mais c'est en contradiction totale avec les paroles de Rashi, qui dit, im lavan garti, tariag mitzvot shamarti. J'ai appliqué les 613 mitzvot de la Torah chez Lavan. J'étais très pieux. Très religieux. Alors de quelle faute tu parles? Pourquoi as-tu peur si tu es tellement pratiquant? Eh bien, c'est Yaakov lui-même qui le dit juste à la suite. Va echar ad ata. J'ai trop tardé pour revenir sur la terre d'Israël. Quand Yaakov revient en terre d'Israël, il ne revient pas parce qu'il a une étincelle comme ça qui se réveille. C'est parce que quelqu'un vient de naître. Et Yaakov, à ce moment-là, aurait dû immédiatement revenir. Regardez le verset, c'est la naissance de Yosef. Les sages nous disent pourquoi Yaakov décide de revenir en terre d'Israël précisément lorsque Yosef naît. Mais tout simplement parce que Yosef, dit le Harizal, il est en valeur numérique 156, exactement la valeur numérique du mot Sion. C'est-à-dire que le sionisme vient de naître. Donc Yaakov doit rentrer en terre d'Israël. Incroyable mais vrai. Et lorsque Yosef, qui est le représentant de cette valeur de la nation, est en train d'éclairer Yaakov, eh bien Yaakov décide de revenir sur cette terre. Nous disons ça dans le Mincha de Shabbat, qui est comme ton peuple, Israël, Goy Echad, une grande nation unique, Baaret, seulement sur la terre, dit le Zohar, en dehors de la terre, ce n'est pas une nation. La preuve, c'est que Ézéchiel, au chapitre 36, nous traite d'ossements desséchés lorsque nous vivons en exil. À tel point que l'exil est appelé là-bas pas moins qu'un cimetière. Et que lorsque le peuple d'Israël sort de ce cimetière, eh bien ça s'appelle la résurrection des morts. Moraï Verabotaï, vous êtes tous des morts ressuscités au jour où vous avez réalisé votre alia. C'est la résurrection des morts. Je ne vais pas tarder à laisser la parole à mon ami Ronnie. Bien entendu, on va développer tout cela, c'est énorme. Je ne sais même pas par où commencer. Pour résumer cette introduction, les nations ont peur seulement de la nation d'Israël. Les nations du monde n'ont jamais eu peur des individus juifs religieux. Ça ne leur fait pas peur. C'est juste au moment où la nation prend conscience qu'elle doit revenir sur sa terre que les problèmes reviennent. Et chez Yaakov par le combat avec l'ange, et en Égypte, lorsqu'on veut sortir d'Égypte pour revenir sur terre d'Israël, et il y a à peu près 65 ans, quand on a voulu quitter l'exil pour revenir créer notre État, et on a subi la Shoah. Ça veut dire que c'est ça qui fait peur, et c'est Paro qui le dit. C'est lui qui nous définit pour la première fois dans la Torah en tant que nation, en tant que peuple. Ineam Yotse Mitzrayim. C'est un peuple qui sort d'Égypte. Un peuple est sorti d'Égypte. Un peuple a reçu la Torah et les mitzvot. Et un peuple rentre en Eretz Israël pour fonder un État qui va être la structure par laquelle les valeurs divines vont se déposer sur terre. Et nous sommes en plein mouvement de cette fabrication-là. Toda Rabba.
C'est difficile de parler après lui, mais on va essayer. Comme nous avons la langue bien pendue, c'est peut-être... Donc, pour relier l'enjeu qui est le nôtre, à savoir essayer à titre comparatif ou complémentaire de définir ma iauma, la nation, qui étonnamment ne peut pas être traduite par patrie, mais par matrie, puisque Uma a pour racine M, c'est-à-dire la mer. Or, la mer est porteuse de capacité d'être ou d'attributs totalement différentiels à celui de l'homme. L'homme est dans le droit et le devoir, alors que la femme est dans le chaleureux, l'amour et autres qualités vertueuses de la condescendance à l'autre être. Parler de nation, parler de Houma, c'est bien déjà vouloir essayer, comme le voudront des gens comme Matatiaou et ses enfants, mais ceux qui l'accompagneront. Et ainsi que nous l'enseignent les sages dans les Sefer HaMakabim, les cinq livres des Maccabim, ce ne sont qu'une minorité qui ont suivi ces hommes afin d'essayer de redorer les lettres de noblesse d'Israël. La volonté des autres nations vis-à-vis de ce que nous représentons est de nous déstabiliser, mais le mot est insuffisant parce qu'en vérité, il est question de dénaturer. Teva en hébreu, c'est la même valeur numérique que Elohim. Elohim, dans la sagesse de l'enseignement, veut dire le Dieu créateur des lois immuables. C'est qu'il y a dans la nature, et la nature d'Israël particulièrement, quelque chose qui est absolument immuable. Au point que bien avant les Maccabim, lorsque Shaoul sera nommé comme roi et que la guerre qu'il devra mener afin d'emmener avec lui Israël à la reconquête de sa véritable nature, lorsqu'il échouera, le prophète Shmuel le congédiera, il ne pourra plus être roi, mais il lui dit quelque chose qui va rester gravé en lettres de feu dans l'historiosophie d'Israël. Netzar Israël, lo yeshaker. L'éternité d'Israël ne se démentira pas. Le train d'Israël roule inexorablement vers sa destinée. Certains peuvent décider de le quitter. Certains peuvent décider de ne pas y monter. Certains peuvent décider de le prendre au départ ou de le prendre en marche. Il est évident que le train, que la nature d'Israël, en tant que ce qu'elle représente foncièrement, roule inexorablement vers sa destinée. Il y a 70 ans, si nous avions tenu, Yoël et moi, les propos que nous tenons depuis ces dernières années, on nous aurait très certainement traité d'utopistes, de rêveurs. Eh bien, la réalité nous a démontré autre chose, que l'éternité promise par le prophète Shmuel est quelque chose qui va bien au-delà de la simple réalité de l'histoire qui est la nôtre. Pour compléter un peu ce que Yoël a dit à un moment donné, je vous dirais que un personnage tout à fait intéressant qui s'appelait Jean-Baptiste Vicot. Il vivait au XVIIIe siècle en Italie. C'est un historien et un chercheur qui essaie bien avant Mendeleïev de créer un tableau où selon des critères normatifs et de valeurs pourrait classer les nations dans l'histoire de l'humanité. Selon ce qu'il connaissait à l'époque, toutes seront classées. Mais il avouera dans son ouvrage qu'une seule était inclassable. Et il écrit de sa propre main, avec la plume qu'il tenait, que Israël ne rentre dans aucune normativité pour une seule raison. Vous savez laquelle ? Il dira que le peuple d'Israël relève de la méta-histoire, c'est-à-dire de l'histoire d'une autre dimension où sa relation en tant que nation relevait du sidéral et non pas du terre-à-terre. Absolument incroyable. Mais ce qui est important à se rappeler, c'est que si l'enjeu d'Israël sera de tout temps de retrouver l'indépendance, la souveraineté politique, parce que moyen de pouvoir s'exprimer à corps et à cri, à haute et intelligible voix, de la meilleure des manières possibles, eh bien, c'est lorsque cette unité nationale est retrouvée. Je vous donne un exemple. un exemple probant et fameux, bien entendu. La Torah, qui fait partie de mon cher livre que certains d'entre vous suivent avec moi à Rehov Bazel depuis 3 ans maintenant, et que j'enseigne à des milliers de gens et à travers Internet, les télés, les radios et les journaux. Car nous retrouvons ce livre-là, composé de 24 livres, mais dont les 5 premiers sont apparemment les plus entendus. J'ai pas dit compris, j'ai dit entendus. On est allé à la synagogue le Shabbat, dans 98,9% des cas, on ressort, comme disait ma grand-mère, une main devant, une main derrière. Mais il est quelque chose de très important. C'est que l'ouverture du Tanakh, ou des 5 livres de la Torah, commence par le livre de Bereshit. Et le livre de Bereshit n'a absolument aucun référent d'une législation concernant le peuple d'Israël, quelle qu'elle soit. Incroyable. Et l'on passe dessus, bien entendu, de manière écervelée la plupart du temps, sans comprendre pourquoi ce livre est là, parce que la loi commence à la paracha de Bo dans le livre de Shemot. Et qu'y a-t-il à la loi, à la paracha de Bo dans le livre de Shemot? L'apparition de ceux qui vont revendiquer précédemment, à tout en carton, « Let my people go ». Laissez mon peuple sortir. Et la première mitzvah concernera le peuple d'Israël à travers cette première mitzvah qui porte le nom de Néoménie. Si c'est barbare, en hébreu, Rosh Chodesh. C'est-à-dire de ceux qui allaient devoir, en tant que nation, devenir les maîtres du temps offert par l'Éternel. Et le temps en hébreu, c'est Zman. Mekadesh Israël Veazmanim. Mais vous savez que le temps n'est votre temps que si vous êtes Zminim Leazmanato. Lazman Liotzamin Leazmanato. Être prêt, être présent, être prépondérant à l'invitation du temps, car le temps sait qu'au-delà de tous les temps, eh bien, nous avons l'espace qui nous attend. Et l'Éternel, non seulement dans cette paracha de Bo, vient donner à l'homme la notion du temps, c'est-à-dire de l'identité, mais il le fait sortir d'Égypte, car il veut lui donner la notion d'espace. Et quand un malade arrive à nos urgences à l'hôpital, nous lui posons 2 questions. Comment t'appelles-tu et où habites-tu? Et pendant mes études à Paris, nous avions appris que sur le dossier, lorsqu'il ne répondait pas, nous devions marquer DTS, désorientation temporo-spatiale. Il ne sait ni quelle est son identité, ni quelle est sa... l'espace, l'adresse qui est la sienne. D'ailleurs, les nations civilisées inventeront la boîte à lettres, car la boîte à lettres était non seulement cette boîte où je déposerai mon nom comme identité, mais sur une adresse bien précise pour bien savoir que l'homme ne peut être reconnu qu'à travers ce temps et cet espace. Et ce qui a été dit pour l'homme dans le microcosme de son histoire est d'autant plus valable pour le macrocosme de ce peuple qui sortait d'Égypte, à qui l'on allait donner un nom et qui allait essayer de se poser sa boîte aux lettres là où l'Éternel lui avait promis de devenir une grande nation par laquelle serait béni l'ensemble des nations. Raison pour laquelle vous comprenez ce soir l'ensemble des caméras internationales qui nous entourent, même à la minute où je parle. C'est-à-dire que, comme avait dit un de nos amis et maîtres, le retour d'Israël, c'est l'espérance du monde. Et comprenez que la mitzvah dont je vous ai parlé concerne le mot « dat » qui n'a jamais voulu dire que Dieu nous en préserve religion, mais qui a voulu dire mode de vie, un mode de vie, une constitution pour une nation qui, à travers ce référent de temps et d'espace, allait être capable de devoir se réaliser elle-même pour son propre bonheur, mais pas seulement celui de l'ensemble d'une humanité qui était en patience et en souffrance, puisqu'en hébreu c'est la même racine, Sebel ou Savlanit. Vous avez ici l'approche d'une nation, Ouma, avec tout ce qu'elle a de féminin dans son devenir, et la notion de religion qui, par cette paracha de Beau, est venue signifier le sens que ces Maccabim-là voudront donner en se révoltant contre une société qui s'appelait d'antan la Grèce, mais qui de notre temps peut s'appeler autrement, mais qui dans tous les temps a essayé, en nous faisant traverser les sociétés d'accueil, de recueil, mais plus souvent de cercueil, de dénaturer la véritable identité qui était la nôtre. Je termine avec cela, en vous laissant la parole pour poser vos questions, mais sachez ô combien le sujet, comme vous l'avez deviné, et avec l'intervention de Yoël et la mienne qui était très restreinte et succincte, nous avons touché le sujet sur le bout du petit doigt, du petit pied, du pied droit. Mais nous sommes très loin, et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, ou comme a dit Yoël, si on m'invite, mais tous les mois, il y a 2 jours, j'étais ici, vers Rof Basel, nous avons appris ces femmes, ces résistantes, qui vont honorer le devenir d'Israël. Qui sont-elles? Comment voulez-vous que le petit qu'on m'a jeté dans les mains, il y a 6 ans de cela, qui était grand comme un chaton, mais cyanosé, tout bleu, mort dans mes bras, 1 heure avant Shabbat, j'ai su faire les gestes de le réanimer et de faire que ce garçon aujourd'hui, fils d'un des grands chanteurs israéliens, eh bien, est vivant. Je n'ai jamais été au stage de réanimation néonatale parce que ma sensibilité me l'interdisait. Mais d'avoir appris, simplement, comprenez le message, d'avoir appris théoriquement à sauver cet enfant. Et les gens pensent que par je ne sais quelle divine infusion, confrontés à Tsuketan, ou à Milchama Abaa, ou à ce qui nous attend socialement, économiquement, politiquement, militairement, nous avons les moyens de nous mesurer. Sachez-le dès maintenant qu'ils seront une minorité à donner un sens au devenir d'Israël et de l'humanité. Une minorité. Mais comme le 25 août 44, toutes les crapules parisiennes sont descendues dans la rue, we are the champions. Seulement ceux qui étaient morts avaient 16 à 18 ans pour permettre aux crapules de crier, nous sommes les champions, nous avons gagné et on va pouvoir danser sur Charles Trenet de nouveau. Quel camp choisissons-nous? Bah, stop.
Merci, merci beaucoup à Rémi, merci beaucoup à Yoël. Je suppose qu'il y a plein de questions, tout comme moi d'ailleurs, dans votre tête. Il y en a, parce que, en fait, ce sont beaucoup plus de questions qu'ils nous ont posées que qu'ils nous ont exposées de fait. Et ça, je crois que, qu'est-ce que la Ouma, qu'est-ce que la patrie, qu'est-ce que la matrie, c'est une des questions qu'on est en droit de se poser, et pourquoi non, on nous appelle Ouma, alors qu'en France, la France patrie. Hein, c'est très significatif. Et voilà, donc celui qui a des questions, je vous passe le micro. Monsieur Rabin.
Ne vous gênez pas, n'ayez pas.
Voilà, absolument, toutes les questions sont bonnes à prendre, et puis en plus, bon, ça nous permettra d'essayer tout ce qui a été dit, hein, au fait de toutes les questions à poser. En suivant pour l'ensemble, je vais arriver très loin, mais nous sommes les deux à la pose des questions.
Quelle, okay, madame.
Madame. Oui,
monsieur. Monsieur Netanyahou, vous avez les canations.
Est-ce que ça vient
de vos élections?
Pas besoin
d'y
croire. Oh, c'est bon. N'importe quoi.
C'est
bien de poser.
Stop. Yoël, il prendra juste la parole. J'ai devant moi le papier sorti par le Parlement israélien. Il est question de décision de mettre en fonction la notion d'État national du peuple juif. Alors je suis d'accord sur la première partie, État national. Je suis en désaccord total avec la deuxième partie, peuple juif. Le peuple juif n'a jamais existé. Le peuple des Hébreux, oui. Le peuple d'Israël, oui. Le juif, et je la fais très courte parce que Yoël va sûrement monter sur ce que je dis et corroborer ce que je dis, le bon juif, et entendez-le et que ce soit dit et su. Je suis peut-être vindicatif, mais dans la situation où nous sommes aujourd'hui, je m'interdis à moi-même, mais j'interdis à mes 208 étudiants de ne pas savoir. Ce n'est pas une question de vous ne pouvez pas savoir. J'interdis le non-savoir. Et celui qui ne sait pas, eh bien, ne réanimera pas le petit. Le juif, c'est Yehudi, qui vient de Yehuda. Yehuda, c'est un douzième d'Israël. C'est donc que le mot juif qui apparaît seulement dans le livre de Yirmiyahou, Aoudal Tanar, eh bien, le mot juif n'apparaît qu'au moment de la perte de l'histoire, de la terre et de la langue d'Israël, lorsqu'il ne reste que la culture. Les sages vous donneront des moyens mémotechniques pour vous rappeler que le juif fraction est à même de retrouver l'hébreu du nombre entier. L'an prochain à Jérusalem, briser le verre sous la roupa, etc., etc., dans la prière. C'est afin de savoir que l'état exilique, que l'état d'être fraction n'est pas une finalité, qu'il est le moyen de pouvoir retrouver le nombre entier de notre entité qui ne s'appelle ni juif, ni Israël, mais là, ce que dira Abraham, ce que dira Yosef à Pharaon, ce que dira Yonah au capitaine, Ani Ish Ivri. Et donc je dirais que ce qui me manque ici, et que les nations attendent, c'est l'état national du peuple hébreu, car dans les lois fondamentales de 1950, je lis, il est déjà question de l'état national pour les juifs. C'est-à-dire, donc l'état national du peuple juif, à mon avis, c'est l'état national du peuple hébreu.
Est-ce que ce n'est pas une méconnaissance justement du terme juif et une méconnaissance du terme hébreu? Je veux dire que pour certains,
je veux dire... Zébaro.
En fait, à mon avis, dans Netanyahou, quand il dit le mot terme juif, dans son esprit à lui, il y a très certainement le problème.
Je ne sais pas, je ne peux pas mettre les mots dans l'autre. C'est-à-dire, je dis simplement ce que moi, personnellement, en tant que prof, en tant qu'enseignant et en tant que public, je ressens intimement, c'est mon opinion et ça n'engage que moi, bien entendu.
Mais l'oreille qui va entendre au-delà de notre frontière, quand tu entends le mot hébreu, ça ne dira rien. Quand tu entends le mot juif, ah,
tu sais
ce que c'est quand même. C'est vrai, c'est vrai. C'est la vraie, c'est pas le juif, dans le sens très pur du terme. Mais il n'empêche que pour les nations du monde, pour les Oumod d'Arolam, le mot juif, seul comme une entité qui fait partie du
Ram. J'aurais juste une bémol, Chaïm, avant de laisser parler Yoël, c'est qu'aux informations françaises, on ne dit jamais l'État d'Israël ou l'État juif, on dit l'État hébreu. D'accord. Non, c'est derrière, on lui donne la parole, parce que maman, c'est aval, c'est long micré.
Nous avons une règle dans la Torah, Ma'ase Avot Siman Labanim. Cette règle nous a été donnée par le Ramban, Alav Shalom, un des derniers kabbalistes, et qui nous dit qu'en réalité, les actions de nos pères passent dans nos gènes, dans notre ADN. Ça veut dire que ce que Yaakov a subi, nous allons, en tant que nation, le subir durant notre histoire. Or, si Yaakov fait partie de l'un de nos trois pères, c'est déjà complexe. normalement, un homme constitué a un père et une mère. Nous avons trois pères et quatre mères. Ça veut dire qu'on sort déjà avec un complexe à gérer et qui n'est pas du tout évident. Parce qu'en réalité, les trois sont un, mais en prenant Yaakov par lequel Israël va sortir, Israël ne naît pas. Israël existe. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que le Créateur a déjà créé Israël en tant que pensée. Le temps, c'est juste que ce Israël de la pensée se manifeste sur terre. Donc il faut un groupe humain qui va être le porteur de cette création qui s'appelle déjà Israël. Il y a une braïta que nous disons, Chaya achat omedet be'em saharakia ushma Israël. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a déjà créé une forme de vie, une identité de vie, une entité de vie qui s'appelle Israël et qui attend de se révéler. Eh bien, Yaakov, au début de son évolution, du terme qu'on aime bien, Roni et moi, de sa perfectibilité, eh bien, il est Yaakov. Mais il est Yaakov jusqu'à un certain stade, au moment où il commence à savoir combattre pour revenir vers son identité, eh bien, il change de Yaakov et il devient Israël. Et le texte de nous dire que Yaakov, de temps en temps, on retrouve encore ce nom de Yaakov. Et moi, je vous pose la question, pourquoi ? S'il est devenu Israël, il est déjà monté de niveau. Les sages nous disent que c'est une soupape de sécurité, parce qu'à chaque fois qu'Israël ressortira en exil, il retombera dans son Yaakov. Ça veut dire qu'en réalité, nous avons en nous plusieurs degrés qui correspondent ces degrés-là à notre état d'esprit, à notre état de rédemption ou d'exilé. Et ce nom de Israël, lui non plus n'est pas définitif, il n'est pas le seul. Il y a un troisième prénom qui s'appelle Yeshurun, et c'est celui que nous faisons lorsque le peuple d'Israël revient sur sa terre et qu'il commence à être le porte-parole pour libérer les nations du monde tellement vil, tellement absurde dans lequel ces nations vivent. Ça veut dire que Yaakov devient Israël et Israël monte à Yeshurun. Nous avons donc une forme de mutation du peuple d'Israël qui est tout le temps dans un éternel mouvement, contrairement à celui qui veut le frapper, qui s'appelle Esav, en hébreu, Asoui, il est fait. Il n'a pas à évoluer. Comme en philosophie, il y a une machloket, si je puis dire, entre Héraclite et Parménide. Parménide dit que ce qui est, on ne peut pas bouger. Alors que Héraclite dit qu'il y a une éternelle évolution. Eh bien, nous sommes de ce côté-là. C'est-à-dire que nous avons une stabilité, effectivement, comme dit Parménide, mais nous avons aussi la possibilité d'évoluer selon la situation. C'est-à-dire que nous sommes tellement dans une certaine souplesse que nous pouvons nous imbriquer dans n'importe quel trou dans le monde. Et c'est en même temps notre force, et en même temps notre faiblesse. Et si on ne sait pas se réveiller de ce côté-là, et revenir à chaque instant à cette identité Israël, et si je dois retrouver Israël seulement parce qu'il y a un combat nocturne avec un ange qui veut me tuer, c'est très grave. J'ai besoin d'un ange qui vienne me frapper pour retrouver le Israël qui est en moi. Pourquoi je ne retrouve pas ce Israël naturellement, tout simplement, seul ? J'ai besoin qu'on m'oppresse, j'ai besoin qu'on me frappe, j'ai besoin qu'on me blesse pour retrouver le Israël. Apparemment, le système marche de cette façon-là. Et tant que Israël n'est pas oppressé, il ne retrouve pas son jus intérieur. c'est malheureux, mais c'est en réalité notre histoire. Donc, Kaasher Yehanu Oto, plus on l'oppresse, Ken Irbe, Ve Ken Ifrot, c'est là où il sort en réalité sa véritable couleur. Mais moi, je nous propose à tous un autre système. Un système où je n'ai pas besoin qu'on vienne me frapper dans un combat nocturne. Un système où je prends conscience parce que je fais un cheshbon nefesh. Une prise de conscience lorsque je vais allumer mes veilleuses de Hanouka, par exemple. Et vous savez que les kabbalistes nous disent qu'il faut rester une demi-heure devant les lumières. Aller regarder. Pas juste pour regarder une flamme, c'est très sympathique. Mais pour savoir qu'il y a ici un sens éducatif. Hanouka vient du mot chinour. C'est une éducation. Or, les deux fêtes qui vont rester à la fin des temps, c'est Pourim et Hanouka. Pourquoi? Parce que Pourim ne veut pas dire Pourim, carnaval. Pourim, c'est une racine en hébreu de naissance. Pérou, Urvu, Piria, Verivia. C'est-à-dire féconder. Pourim, c'est la fête de la fécondation, c'est-à-dire tu as trouvé ta femme. Et une fois que tu l'as fécondée, eh bien, la suite, c'est Hanouka. Tu as des enfants, tu dois les éduquer. Pourim et Hanouka, c'est tout simplement retrouver notre épouse. Et pour rebondir, et je termine avec ça, à ce qu'a dit Ronnie tout à l'heure, c'est que nous sommes sortis du ventre d'une matrice égyptienne. Mais la terre d'Israël n'est ni maman, ni autre chose. C'est notre épouse. La terre d'Israël, c'est une épouse. Et le texte le dit clairement à qui sait parler l'hébreu. Ki tavou el haaret. C'est-à-dire que la relation est une relation de bi'a. Bi'a veut dire un lien intime entre le peuple et sa terre. Et lorsque ce lien se fait, eh bien, vous avez des fruits qui poussent sur cette terre. Et Rabbi Yitzhak dans la Gemara nous dit qu'il n'y a pas de signe aussi clair de la fin des temps que lorsque la terre d'Israël donnera ses fruits avec un bon œil. Et ces fruits viennent de l'accouplement entre vous, entre nous et cette terre-là, que nous devons féconder. Ça, c'est la fête de Hanouka. Ce n'est pas par hasard si le nom de cette fête est au féminin. Hanouka. Ça veut dire que cette fête est une fête féminine et je dois savoir ce qu'elle vient m'enseigner. La suite un petit peu plus tard.
Autre question. D'abord, je veux vous dire ma pensée à moi personnelle, étant donné que jusqu'à il y a 10 ans, j'ai travaillé pendant 23 ans sur le terroir de France et de Navarre, et que depuis 10 ans, ma conclusion a été que, au vu et su de l'événement que nous vivions, eh bien, il est clair que notre mon neugorgien est en Israël et seulement en Israël. C'est-à-dire que... Oui.
On a créé l'événement.
Après, je vais faire un hébreu maintenant.
Non, non, pas du tout.
טוב, אז... Alors, pour continuer sur la question qui nous a été posée, je crois qu'il y a un nombre de personnes qui continuent de travailler à ma place personnellement. Je les connais personnellement aussi. Le plus célèbre est M. Shalom Bach, concernant l'Alia de groupe. Je peux vous dire que les centres d'études comme Edmond Flegg à Paris, etc., vous voyez, au bout de... Ça fait 35 ans que je suis là. J'ai donc arrêté il y a 11 ans de travailler là-bas, c'est-à-dire les allers-retours. Mais par contre, je me suis intimement persuadé qu'il m'y sillonne cette aura ou de Varachem Mirushalay. Et je crois que je n'ai pas besoin de venir et de te convaincre, mais si tu es capable de voir de là où nous parlons une lumière, alors que tu te sens dans l'obscurité, tu seras attiré par là où se trouve la lumière. La Gemara dit qu'on ne peut pas sortir un prisonnier de sa prison, s'il ne le veut pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dirais à la limite, et ce n'est pas par hasard que M. Charansky a fermé les portes du département de l'Alia sur la France, c'est que nous avons des collaborateurs qui ne sont pas juifs et qui en France font un travail extraordinaire. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre qu'il y a quelques jours, une fillette de 8 ans a été menacée. Je n'ai pas besoin de sortir de grandes études pour comprendre que selon la dernière information, le CRIF aurait demandé de ne pas porter plainte. Je n'ai pas besoin de sortir des hautes études politiques pour comprendre qu'il y a des prisonniers qui, contrairement à ceux que nous avons connus à la Santé ou au Beaumet à Marseille, si le procureur de la République se présentait avec un simple haut-parleur, disons par décret du président de la République, vous êtes libre dans l'heure suivante, je vous parie qu'il ne restera personne dans la 61e minute. Je ne peux pas comprendre que dans la situation d'aujourd'hui, je disais à Yoël en arrivant ici que j'ai reçu les maires du sud de Paris, Parti Socialiste et Communiste. Vous savez, j'habite Révol et je reçois énormément de personnalités, sénateurs, parlementaires, députés, organes politiques, gouvernements politiques, que vous le sachiez, de toute manière, à part Yoël, qu'il est en train d'enregistrer, il n'y a pas de micro ici, d'après les dernières révélations du tabac. Ce que je veux vous dire, c'est que ces maires-là, nous sommes venus par la route, la 431, Madame la maire d'Orlitier, Parti communiste français, à l'hôtel d'Anne, en terminant les 3 jours de description d'Israël, termine en disant, messieurs, puisque tous les autres étaient des maires hommes, messieurs, nous avons mis 2500 ans à construire Orlitier, ce que René nous a montré, ça fait 66 ans montre en main. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Mettez vos forces ici. Parce que c'est ici qu'est en train de se jouer l'histoire et nous avons dépassé le chiffre de 6 millions de Juifs Béhéret Israël. Ça veut dire que très prochainement, les autorités rabbiniques devront prendre le taureau par les cornes et asseoir un Sanhédrin lorsque Rov Béhéret Israël. Et quelles sont les lois publiques qui concernent Israël? Mais si dans notre classe aujourd'hui, Hier, il l'a eu en cours et moi ce matin, j'ai un garçon de 39 ans qui arrive en me disant, je suis un philosophe perdu dans les méandres de l'Europe et voyant l'obscurantisme obscurcir l'Europe, j'ai eu la chance de percevoir au journal de TF1 une lumière alors qu'on insultait Israël. Il est là. Il est là. Et puis j'ai aussi celui qui était pompier à Toulon. Goy, je ne suis pas plus l'obscurité. Je viens vers la lumière. Alors si Madame Ben-Simoun et Monsieur Lazarovitch ne voyaient rien, c'est un problème d'opticien ou d'ophtalmo. Mais certainement pas le fait que nous devons dépenser des mille et des cents pour persuader un enfant de rentrer à la maison.
Je suis un tout petit peu en déphasage avec ce que j'entends, parce qu'il y a deux manières, Mechila Mikvotrem, Shanachnu Mdabrim Belashon Avodah Zara, Dimkom Leldaber Belashon HaKodesh. היינו באמת רוצים, אבל זה כנראה חלק מהרפואה השלמה של עם ישראל שחוזר לארצו. אתם שומעים? דברים היוצאים מהלב, נכנסים אל הלב. אז ברשותכם, il y a deux manières d'appréhender le judaïsme. Ou se sauver du mal, sur mera, ou bien assez tôt valer vers le bien. Mais en réalité, les deux sont valables. Le problème, c'est que si on doit comprendre le bien seulement parce qu'on se sauve du mal, ça ne suffit pas. Il ne faut pas quitter l'exil parce que l'exil me fait mal. Il faut quitter l'exil parce que tu as pris conscience de l'allumage de la lumière et du temps qui est maintenant arrivé pour allumer cette petite lampe. Il faut arrêter de se sauver de ce qui me dérange. Il faut aller vers quelque chose que j'ai choisi. Celui qui se sauve n'a qu'une référence face à lui, le mal, parce qu'il est tout le temps en train de le fuir. Mais celui qui va vers la lumière, il a une autre référence, la lumière. C'est autre chose. Et c'est ça la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, quand est-ce qu'on allume cette veilleuse de Hanouka ? Mishetech Shach HaChama. Qu'est-ce que ça veut dire au moment du coucher du soleil ? Au moment où toi tu deviens quelqu'un de pessimiste, où le soleil s'est couché pour toi. Mais arrête de te référer à ça. Allume une petite lampe. Mais en réalité, ce n'est pas la lampe que tu allumes, c'est toi-même. Si tu allumes des lumières à Hanouka, tu n'as rien compris. Allumer les veilleuses de Hanouka, c'est s'allumer soi-même. C'est de commencer à voir la lumière dans la vie et non pas sans arrêt regarder le sombre et le noir. Ça, c'est le secret. Et donc, c'est ce secret-là qu'il faut atteindre. Parce que cette lumière, en réalité, c'est une lumière qui me'at o doche harbe choshech. Un peu de lumière repousse beaucoup de noir. Et c'est la qualité de Yosef HaTzadik dans la Torah. Pourquoi nous l'appelons Yosef ? Parce qu'il est tout le temps en mouvement vers le futur. Yosef, c'est demain. C'est pas Mossif, c'est Yosef. C'est-à-dire qu'il est dans le futur, il est dans un lendemain qui change, il est dans une lumière, il est dans le rajout. Comme les Nérot de Hanouka, Mossif veholech. Yosef HaTzadik, c'est les lumières de Hanouka. Lorsque l'ange de Yaakov, lorsque l'ange de Esav a frappé Yaakov, où est-ce qu'il a frappé ? Dans le Yosef qui est en Yaakov, c'est-à-dire dans sa capacité à rajouter ou bien à s'arrêter. C'est-à-dire qu'il a voulu en réalité paralyser Yaakov, lui enlever le Yosef qui était en lui. Et ça c'est le secret de Yosef HaTzadik. Yosef c'est la lumière, c'est le secret de Hanouka. Donc lorsque nous sommes dans cette lumière, c'est une lumière qui en réalité a pour référence la lumière. Il faut arrêter de voir combien celui-ci me fait mal, et combien l'autre me frappe, et combien celui-ci me fait de la peine. Je vais vers, je suis dans une construction, pas dans une fuite éternelle.
Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Yoël, Je rajoute un mot, sachez que Yosef est frappé à la hanche et que le guide anassé n'est pas le nerf sciatique, mais en médecine cela s'appelle le nerf qui innerve les organes sexuels et il s'appelle le nerf pudental. C'est-à-dire qu'en le frappant à cet endroit-là, c'est l'impossibilité de rajouter. Et quand vous savez que le mot bracha est l'occurrence de sa racine berère sur laquelle la femme s'appuie pour donner naissance, c'est l'empêcher de donner naissance, l'empêcher d'être béni, l'empêcher d'un devenir quel qu'il soit.
D'accord. Et on va des questions.
Donne-lui. Micro et code.
Et on devait parler de la fête de Hanouka. Et c'est une très grande fête, une fête plus, pas tellement religieuse, mais surtout. Et comme vous l'avez dit,
de la nation.
De la nation, une fête nationale. Mais vous n'avez pas mis le point sur un certain détail qui est, à mon avis, très important. Qu'est-ce que ça veut dire Hanouka? Hanouka, ça veut dire que les Maccabim, ils sont revenus dans le Beth Amikdash et ils ont fait fonctionner. Ils ont fonctionner leur Beth Amikdash intérieur dans leur cœur, mais ils ont fait aussi fonctionner le Beth Amikdash du peuple, de la nation. Aujourd'hui, quand on fait la fête de Hanouka, je peux vous dire que le jour de Hanouka, comme tous les jours, on joue au football chez les Arabes, là-bas, à l'endroit du temple. C'est une chose qui, à mon avis, c'est un fléau, c'est une gifle qu'on reçoit tous les jours, et on ne fait absolument rien sur ce sujet.
Comment vous vous appelez?
Je vais vous dire encore une autre chose, qui m'a aussi beaucoup frappé quand le jour où j'ai été à la Knesset. À la Knesset, il y a
le tableau d'entrée
du Jean-Pierre. La Midlat Et j'étais frappé par le fait, quand on nous a parlé, dans la Megillat Atzmaout, quand on a fait la Megillat Atzmaout, on était en train de se chamailler pour ne pas mettre le nom de Dieu dans cette Megillat. On a mis juste le mot de tour pour essayer de faire un peu une... Alors justement, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que l'on fait, nous, sur ces choses qui sont, à mon avis, des
tares. Réhouven, votre question est importante, mais si je cite la Gemara, Masechet Shabbat, Daf Kaf Alef Amud Bet, la Gemara de Shabbat, le Talmud de Shabbat, qui traite de la fête de Hanouka, met le point sur quelque chose, pas que les Hashmonaïm sont rentrés dans le Beth Amikdash. Bien avant de rentrer dans le Beth Amikdash, la Gemara nous dit que Gavra Malchut Beth Hashmonaï Venitzrum Batku et le reste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas seulement l'entrée au temple qui a changé les choses. C'est que les Hashmonaïm ont compris qu'il faut refonder la Malchut. Et lorsque tu refondes la Malchut, tu peux entrer dans le Beth Amikdash. Aujourd'hui, si nous n'avons pas cette puissance, c'est parce qu'en réalité, c'est une évolution. Nous l'avons, cette force. Mais la Geoula d'Israël, c'est Kim'a, Kim'a, Kach hi Geoulatam shel Israël. Au départ, c'est une lumière qui est très petite et au fur et à mesure, il y a une évolution. Comme Yaakov qui évolue, la Géoula d'Israël, c'est un chinour. C'est une éducation. Ça veut dire que ce n'est pas blanc ou noir. Nous ne sommes pas des manichéens. Nous sommes dans une évolution. Et donc si aujourd'hui vous voyez des gens jouer au foot là-bas, sachez qu'il y a 65 ans, il y avait même des gens qui jouaient au foot à l'extérieur et même ici. Ça veut dire que nous sommes dans une évolution et il ne faut pas voir ce qu'il nous manque seulement, mais ce que nous avons déjà réussi à réaliser. Alors Baruch Hashem, il faut avancer, il faut travailler. Nous sommes dans un plein travail, croyez-moi. Le peuple d'Israël ne s'endort pas. Bikesh Yaakov Lishev Beshalva Kafas Alav Rugzosh El Yosef. Je vous traduis cette phrase, elle est extraordinaire. Yaakov a voulu se reposer. Tout de suite, l'histoire de Yosef lui a sauté dessus. Ça, c'est la traduction bidon. Voilà la vraie traduction. Lorsqu'un juif veut se reposer, on lui dit, rajoute, Yosef. Tu ne peux pas te reposer. Donc n'ayez crainte, nous ne sommes jamais dans un farniente, dans un repos. Nous sommes toujours poussés à l'intérieur de nous-mêmes pour évoluer. Et nous voyons la rapidité, comme a rappelé tout à l'heure Ronnie, avec laquelle Baruch HaShem nous évoluons. J'ai eu la chance de naître en Eretz Israël. Je suis né à Be'er Sheva. Et j'ai vécu à Ashdod. J'ai reçu un film de Ashdod en 1961. Je l'ai vu hier et j'ai pleuré. S'il y avait 3 voitures dans la ville, 1 arrêt de bus,
3 paires de lunettes.
3 paires de lunettes dans un magasin. Soi-disant magasin. Incroyable. Où est-ce que nous étions, où est-ce que nous sommes? Et lorsque nous avons les yeux pour voir, qui aïn be'aïn ir'u beshuv Hashem Tzion, il faut changer de paire de lunettes pour voir notre Géoula. Parce qu'on risque de s'habituer et de ne pas voir que ça avance très vite. Comme quand j'éduque mes enfants, je ne les vois pas grandir, parce que je m'habitue au fur et à mesure. Mais quand je vois une photo, je me mets à pleurer. De mon fils qui a aujourd'hui 24 ans et qui avait 3 ans, 3 mois. Eh bien, c'est exactement pareil. Les gens qui sont dans le passage de la nuit au jour s'habituent. Donc, ils ne voient pas que nous étions il y a quelques années dans le noir et aujourd'hui, nous sommes en pleine lumière et de plus en plus. Et il faut avoir les yeux et les lunettes adéquates pour commencer à voir la réalité en prenant des secteurs d'histoire un petit peu plus larges et vous allez commencez à danser quand vous allez sortir.
Moi, je connais Réhouven depuis longtemps. Non,
ce que je veux dire, c'est que Réhouven a tellement envie que ça se fasse vite.
Nous aussi.
J'ai envie de voir enfin le rêve de tout le monde.
Moi, je veux répondre à Réhouven de 2 manières différentes. Et il sait combien je l'aime depuis longtemps. Toi et moi, nous avons eu des enfants. Je vous laisse responsable des mots.
M.A.U.I.
Je dis que lorsque nous avons eu notre premier enfant, nous étions tous à même, si ce n'est avide, de le voir enfin marcher. La période des 12-15 mois arriva, Réhouven, et selon les livres de Madame, nous ne la citerons pas, sur l'éducation et le développement de l'enfant, il aurait dû commencer à marcher. Or nous vîmes, toi et moi, ô combien l'enfant commençait par d'abord à se mettre à genoux, ensuite de lancer ses mains pour essayer de se relever, et malheureusement, nous voyons que cet enfant se levait, tombait. Juste pour notre information générale, les anthropologues dans le monde entier ont fait une recherche de savoir si même dans ces tribus reculées que nous découvrions en Amazonie ou dans les communautés de Chicago, aux États-Unis, c'est-à-dire de l'hyper-industrialisation à l'hyper-troglodyte, eh bien nous avions constaté qu'aucun père et aucune mère ne s'inquiétaient de voir l'enfant entre 12 et 18 mois se lever et tomber, car dans la mémoire collective du cerveau reptilien de l'homme, il y avait qu'il fallait tomber, se relever pour qu'un jour les enfants marchent. je vous laisse songeur sur la philosophie de cette anthropologie-là. Maintenant, je vais te dire autre chose. J'habite Givat Acharsina, Ramat Mamré. J'ai la chance tous les matins de me lever devant les plaines de Mamré. Je vous le souhaite. Mais c'est la raison pour laquelle je reçois tous ces gens de l'étranger. Parce que ce n'est pas comme dans la visite du ministère des Affaires étrangères, passé à Yad Vashem. Raison pour laquelle nous serions revenus. Non, c'est à Mamré. C'est parce qu'il y a eu Brit Ben Abetarim que nous sommes revenus. Et pas parce qu'il y a eu Yad Vashem. C'est clair. Maintenant, je vais te dire, quand j'ai construit ma maison à Ramat Mamré, c'est parce que j'avais une famille à y mettre. J'ai aussi envie de la maison de l'Éternel, mais je voudrais bien y avoir quelqu'un à mettre. Parce que pour l'instant, je n'ai pas encore un peuple prêt à résider dans la résidence et l'édifice de l'Éternel. Concernant la Megillat Ha'atzma'out, je te donnerai référence sur le livre que tu connais, comme moi, Em Abanim Smecha, Arab Shlomo Issachar Deichel, écrit à Budapest, avant qu'il ne périsse dans les wagons de la marche de la mort au moment de la débâcle de Auschwitz-Birkenau. Et là-bas, il écrit cet homme qui venait, élève du rabbi de Munkach, anti-sioniste notoire. Il déclarait là-bas que la raison qui faisait qu'il souffrait, c'est parce qu'il n'avait pas su voir ce que l'Éternel était en train de démontrer. Et à ceux qui auraient, je dirais, l'outrecuidance de dire pour quelle raison le nom de Dieu n'est pas dans la Megillah de Hatzmaout, parce que les représentants de Dieu n'étaient pas là. Mais, ceux qui n'étaient pas religieux ont quand même condescendu à dire ce qui est écrit dans Ha'azinu du Sefer Dvarim, Tzur Israël. Tzadik v'yachar ou. Il est clair que, bien sûr qu'on aurait rêvé, tu sais quoi, j'ai dit à mes étudiantes hier, je rêve du bonheur, mais tant que vous ne saurez pas que le bonheur est parsemé de longs chemins, où dans chacune des étapes, je dois ressentir un tant soit peu du bonheur, alors il est évident que je désespère de ce bonheur. Exemple, la poésie de Dayenu dans la Haggadah de Pessah. Mais je vais laisser conclure Yoël.
J'ai juste une petite conclusion à faire.
Ben oui, mais on nous fait signe comme ça. Alors nous sommes obéissants. Le thé de terminé. Non, jamais. J'ai dit l'État-nation du peuple hébreu. Je veux que, selon, parce que juif est fraction. Mais j'ai expliqué. J'ai expliqué. Non, pas du tout, pas du tout. Mais je parle de l'hébreu. L'hébreu, le
peuple hébreu, dit une chose, mais le peuple juif.
Je donnerai un cours à Rehov Basel prochainement sur la dimension de l'être hébreu. Je vous y convie, mais ce n'est pas quelque chose d'aussi simple sur une jambe. État-nation, oui, mais d'une identité et d'un projet essentiel.
État-nation,
juif. Ok, très bien.
S'il vous plaît.
Madame voudrait dire quelque chose.
Un peu de silence, s'il vous plaît, ça y est. Bravo. Je n'ai pas la parole.
Pas du tout. Nous parlons simplement du Beth Amikdash en tant que présence divine. c'est dans l'immanence de la réalisation d'Israël. Il est évident que la maison d'Israël, est, depuis plus de 100 ans, est en train de se construire et que sa famille revient. Je dis que le temple, je le veux autant que quiconque, mais comme vous le verrez dans 92 jours, au résultat du suffrage universel, proportionnel, vous verrez encore que nous ne sommes pas prêts à poser ni porte ni fenêtre. Mais la maison d'Israël est là.
Bien, merci pour le parole. Avant que Yoël ne fasse la conclusion de cette soirée très agréable, je voudrais la parole au maire de la com de l'Amérique, qui m'a dit de faire l'honneur de venir, de la cacha Victor, Victor Tal, qui nous a beaucoup plus.
קודם כל אני חייב להודות שהתרגשתי לשמוע את הרבנים, הקריש.
בלי רבנים, הוא רב, אני מחזיר.
ולא רק שהם עשו עלייה בשנים אומנם, הם גרים איפה שאני הלכתי להיות חיין בצבא, אז הם גרים שם. אני חושב שמגיע להם כל הכבוד. נמצא איתנו הרב השקפה, שגם הוא ייתן ככה כמה דקות דברי תורה, חבר הנהלת עיר, שעושה הרבה הרבה למען המגזר הדתי בעיר בת ים. הרב השקפה, אין לי מוחיאות כפיים הרב. ודרך אגב, אני מבין קצת צרפתית, והרב השקפה שומע טוב צרפתית.
אבל הלב,
הלב, אני שמע את זה. טוב, קודם כל, חג שמח. אנחנו חנוכה, ודיברתם על חנוכה. לחטט פה, המשפחה הזאת, לפחות אני מרגיש משפחה כשאני בא אצל כל העולים מצרפת. גם יש חלק באמת משפחה, משפחה אמיתית, וכל השאר משפחה. אני רק רוצה מבקש מכם, בגלל שאני מרגיש כמו משפחה. אני לקחתי, אמרתי לכם את זה אז, לפני כמה חודשים, שאני לוקח חסות את העמודה הזאת של החבר'ה האלה שנותנים אחד-אחד, נותנים הכל למען הקהילה הזאת. ומה שאני מבקש, שיש חילול חודש, ואנחנו רוצים שיהיו כבר חלק אחר. יש לנו נמשיך לעזור, אני חושב שאנחנו עד עכשיו חבר'ה מרוצים מה שאנחנו עושים בשבילהם. נמצאים אצלי במשרד, אצל ריקי כמעט כל יום. מה עם החבר'ה, מה שהם מבקשים, אנחנו משתדלים לעשות הכל. ואני זאת הזדמנות להודות לריקי, איפה ריקי? ריקי, שכל הזמן בקשר, כל הזמן בקשר עם ה... החבר'ה של העמותה ועושה מה שהיא יכולה.
תודה.
אשר לכם חג שמח, תודה רבה, ואני רוצה שהרב יתקבע יעני ונותן שבוע תורה משלו. לא בצרפתית, אני לא אומר, בעברית, כן.
Madame Drami, Sandrine, se trouve tous les mardis dans le bureau de Ricky Cohen, qui est là présent, on la remercie, pour aider, soutenir et diriger tous les francophones de Badian qui ont quelques problèmes, que ce soit avec la mairie, que ce soit avec d'autres administrations, et elle se fait un plaisir de pouvoir les renseigner et les aider dans la mesure du possible. Je ne demandais pas la lune, c'est vrai, mais ce qu'elle a fait de cette semaine, c'est très bien, parce que j'ai fait de 3 ou 4 familles déjà, et grâce à l'aide de Ricky Cohen, je ne cesserai de la remercier, de la rapporter par un peu Ricky Mouach, qui va tout avec de la neige. Merci. Donc la permanence que Madame Sandrine le fait, tout le monde le sait, c'est à partir de 16h chez les 9h pour faire plaisir à Marine Marcos. Et voilà, allez la voir, plus il y a du monde qui va et plus notre demande sera acceptée par la mairie. Merci. Donc, je passe la parole à Laura Lascapa qui va être une personne à nous faire sur son cas.
Je vais prendre une belle barre.
שלום לכולם. אני אשתדל לדבר לאט לאט כדי שתבינו אותי, אבל אני אדבר בעברית. השאלה שאני אתחיל, אומנם לא הבנתי את דברי תורה כי הם היו בצרפתית, אבל הדברים נראו כאלה אמיתיים שאתם מופיעים אותם. אומנם כבודו שם טוען שהוא מרצה, אז הוא מרצה מצוין. אז אוקיי, חזק וברוך. תראו, יש מצוות חנוכה. מצוות חנוכה כתוב שהיא הכתר. אתם יודעים מה זה כתר? כתר זה כמו זה, אתם רואים הכובע שלי? כתר שמים על הראש. אישה שיש לה כיסוי זה גם כמו כתר. אבל יש כתר גבוה, 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 שהוא במקום העליונים, הרוחניים הכי גבוה שיש. אנחנו מגיעים לכתר רק בתפילת מוסף של שבת. מקום גבוה מאוד. עכשיו תראו, לנו יש בתורה 613 מצוות. 613 מצוות מהתורה. ויש לנו עוד 7 מצוות מדרבנן. יחד 613 ו-7 יוצא 620. ש-620 בגימטריה זה כתר. יפה, כתר, כלפה על הראש. אז תראו את גוף האדם איך הוא בנוי. אדם שהוא רוצה להגיע עם היד לאיזה מקום, אז הוא יכול להגיע עד 60 סנטימטר, נכון? אם הוא ינסה עם הרגל, הוא יגיע 1.20 מטר, 1.5 מטר, הוא גבוה מאוד. אבל כל זה בחלק החתון. כאשר הוא יגיע לחלק של הראש, אז הוא הרבה יותר גבוה. כי אם אני אצעק, אז ישמעו אותי הרבה יותר רחוק, כי אני טועה יותר מהידיים ויותר מהרגליים. וכאשר אני רוצה לשמוע, יש הזדקויות שנשמעות יותר מרחוק מאשר הצעקה של הבן אדם. אבל כאשר הגעתי לעיניים, אני רואה כוכבים. כוכבים זה מרחק שנות אור. לא השנים שאנחנו מכירים, שנה, עוד שנה, 10 שנה, 100 שנה, 200 שנה, מרחקי אור אנחנו רואים עם העיניים שלנו מפה. אחרי זה מגיעים להפיק גבוה, מגיעים לראש, למעלה, 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 ואז אנחנו גם רואים על כיסא הכבוד, אנחנו יכולים עם החשיבה, עם הרוחני שיש לנו עם הנשמה, יכולים להגיע עד כיסא הכבוד. והכתר יושב פה. לכן, המצווה ה-620 האחרונה היא חנוכה. חנוכה, משול לכתר, ראיתם את זה בעולם? אנחנו חושבים שמצוות חנוכה זה בסדר, מדליקים נרות ואוכלים שולחניות ושרים מה עשו משועתים וכולי, אבל מצוות חנוכה היא בכתר, היא במקום מאוד מאוד גבוה. לכן אנחנו בחנוכה מבינים שזה כמו יום חול, בתוך היום שעובדים וכולי וכולי, מגיעים לאיזה זמן שעובדים עכשיו להדליק נרות חנוכה. אז עלינו לזכור שהזמן הזה הוא זמן של כתר גבוה מאוד. וכאשר אתה נמצא בכתר, בזמן הזה שהנרות דולקים, אתה יכול לבקש מה שאתה רוצה. כאילו עכשיו אני יושב עם ריבונו של עולם ואני אומר לו, ריבונו של עולם, עכשיו אני יושב איתך פה איתי, אני רוצה ככה וככה, ותעזור לי פה,